À l'écoute de Radio France Internationale en direct de Paris, les 22h, 20h, temps universel, 16h à New York. L'heure de vous présenter en compagnie de Zéphirin Quadio, votre journal en français facile. Bonsoir Zéphirin.
Bonsoir Adrien, bonsoir à toutes et à tous.
Et au sommaire de cette édition du 22 septembre, l'Assemblée générale des pays membres de l'ONU a commencé aujourd'hui aux États-Unis. Chaque dirigeant prend la parole à tour de rôle pour exprimer sa politique ou sa vision du monde. Dans ce journal, nous entendrons le président brésilien et le président américain. Par ailleurs, 200 000 décès sont attribués au Covid-19 aux États-Unis, le coronavirus qui continue à tuer des centaines d'Américains chaque jour. Le Mali célèbre aujourd'hui le 60e anniversaire de son indépendance. Une cérémonie officielle a eu lieu aujourd'hui à Bamako, présidée par le colonel Assimi Goïta. Et puis dans ce journal, nous irons en Russie, où le gourou d'une secte a été arrêté par la police.
Le journal en français facile.
Premier jour de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York et à cause de la crise sanitaire, les dirigeants n'ont pas pu venir au siège de l'ONU.
Du coup, ils se sont exprimés à travers des messages vidéo déjà enregistrés. Comme le veut la tradition, le Brésil a ouvert le marathon des discours. Le président brésilien a d'abord défendu sa gestion du coronavirus dans son pays. Et puis Jair Bolsonaro a également vivement dénoncé une campagne brutale, dit-il, de désinformation sur son pays, notamment au sujet des feux de forêt en Amazonie.
Nous sommes victimes de l'une des campagnes de désinformation les plus brutales à propos de l'Amazonie et du Pantanal. Tout le monde sait que l'Amazonie brésilienne est très riche. Cela explique le soutien d'institutions internationales à cette campagne, soutenue par des intérêts douteux, avec le concours d'associations brésiliennes profiteuses antipatriotiques qui ont pour objectif de porter du tort au gouvernement et au Brésil. Nous sommes à la pointe de la protection de la forêt amazonienne. Notre forêt est humide et ne permet pas la propagation d'incendies. Les incendies surviennent aux abords de la forêt, à l'est, là où les Indiens brûlent leurs terres afin de pouvoir survivre dans des régions déjà déboisées. Ces feux d'origine criminelle sont combattus avec fermeté et détermination. Je maintiens la politique de tolérance zéro à l'égard de tous les crimes environnementaux.
Jair Bolsonaro, extrait de son discours à l'Assemblée générale de l'ONU.
Et deuxième personnalité à prendre la parole, le président américain. À exactement 6 semaines de l'élection présidentielle, Donald Trump n'a pas hésité à utiliser la tribune de l'ONU à des fins électorales. Stéphanie Schuller.
Pour faire oublier les virulentes critiques qui visent sa gestion de l'épidémie de coronavirus aux États-Unis, Donald Trump a lancé une contre-offensive. Pour combattre ce fléau, lui, le président, prétend avoir été à la tête d'une mobilisation générale comme le pays n'en avait pas connu depuis la Seconde Guerre mondiale.
Nous allons distribuer le vaccin, nous allons vaincre le virus et nous allons entrer dans une nouvelle ère de prospérité sans précédent.
La méthode Coué donc, qui fonctionne toujours auprès des sympathisants de Donald Trump, mais virtuellement à la tribune des Nations Unies, on a vu ce mardi aussi un président qui sait qu'il a besoin de convaincre des électeurs au-delà de sa base fidèle s'il veut remporter l'élection.
Mon administration fait progresser la liberté religieuse, les opportunités pour les femmes, la décriminalisation de l'homosexualité. Elle combat le trafic d'êtres humains et protège les enfants à naître.
Les homosexuels aux militants anti-avortement, Donald Trump a tenté le grand écart. Et devant cette tribune par excellence du multilatéralisme, le président américain a confirmé à nouveau que sa vision diplomatique ne changerait pas s'il était réélu en novembre.
Je place fièrement l'Amérique d'abord, tout comme vous devrez donner la priorité à vos pays.
Stéphanie Schuller. Pour ce sujet, à noter les autres interventions par ordre de tirage au sort aujourd'hui à New York, celle du Turc Recep Tayyip Erdogan, du Chinois Xi Jinping, du Russe Vladimir Poutine, de l'Iranien Hassan Rouhani, et puis enfin celle du président français Emmanuel Macron. À noter, l'Afrique doit être mieux représentée au Conseil de sécurité de l'ONU, dont la composition actuelle ne reflète pas le monde dans lequel nous vivons. Ce sont les mots aujourd'hui du président sud-africain Cyril Ramaphosa lors de cet AG de l'ONU.
Et dans l'actualité également, la fin de l'opération militaire française d'aide au Liban.
Ils étaient venus, Zéphirin, venus aider les Libanais après l'explosion sur le port de Beyrouth. C'était le 5 août dernier. Selon le porte-parole de l'état-major, le colonel Frédéric Barbry, eh bien, la dernière voie aérienne militaire est programmée pour demain. Un mois et demi plus tard, les 750 militaires mobilisés vont donc rentrer à Paris.
La Turquie et la Grèce semblent avoir opté pour l'apaisement.
Après des semaines de tensions exacerbées par des manœuvres militaires, dans une crise qui les oppose en mer Méditerranée, les deux pays recherchent des hydrocarbures comme du pétrole au fond de la mer. Eh bien, les deux pays se sont dit prêts à entamer des négociations.
Lui étant directeur d'entreprise très connu en Chine.
Il s'appelle Zhen Zhexiang, ce monsieur de 69 ans, a été condamné aujourd'hui à 18 ans de prison. Le PCC, le Parti communiste chinois, lui reproche de ne pas avoir été assez discipliné car il critique régulièrement le président chinois. Explication, Christophe Paget.
Zhen Zhexiang avait disparu des radars en mars dernier, après avoir posté un article, effacé depuis de l'internet chinois, critiquant la réponse de Pékin au Covid-19 en des termes peu amènes. Il accusait le gouvernement d'avoir tardé à réagir et traité Xi Jinping de clown. Ses critiques directes et régulières de la direction du PCC lui avaient déjà valu le surnom de Zhen le gros canon, et en 2016, son compte Weibo, l'équivalent de Twitter en Chine, était suspendu parce qu'il avait demandé une plus grande liberté pour la presse. Mais cette fois, ce grand patron, qui dirigeait le groupe immobilier public Beijing Huayuan, n'a pas réussi à passer entre les gouttes. En juillet, après avoir été placé sous enquête pour violation de la discipline, il est exclu du Parti communiste et condamné ce mardi à 18 ans de prison et l'équivalent de 530 000 euros d'amende pour corruption et détournement de fonds publics. Dès son arrivée au pouvoir en 2013, le président Xi Jinping avait lancé une grande campagne anticorruption qui lui servirait aussi, selon ses détracteurs, à faire tomber ce qui le gêne. Selon le journal South China Morning Post, les avocats de Zhen Zhexiang n'ont pas eu accès à leurs clients avant le procès, qui s'est tenu dans le secret et avec une forte présence policière.
Le Mali qui célèbre aujourd'hui ses 60 ans, une fête d'indépendance dans un contexte particulier, un mois et demi après un coup d'État et au lendemain de la désignation de Mbandao, officier à la retraite et ancien ministre de la Défense, au poste de président de la transition.
En Russie, l'arrestation de l'un des gourous les plus célèbres du pays.
Et c'est un ancien policier qui se considérait simplement comme être Jésus-Christ. Il avait d'ailleurs enrôlé dans sa secte plusieurs milliers de personnes. Les autorités russes l'accusent d'avoir volé de l'argent à ses disciples. Il a été arrêté. À Moscou, nous retrouvons Daniel Valo.
Ils vivent en quasi-autarcie en pleine forêt sibérienne depuis un quart de siècle. Les membres de l'église du Dernier Testament ont vu ce matin leur gourou être emmené en hélicoptère par les forces spéciales russes. Interpellé avec deux de ses proches, cet ancien policier de 59 ans est accusé d'avoir extorqué de l'argent à ses disciples et d'avoir exercé des violences psychologiques graves à leur encontre. Depuis le début des années 90, Sergueï Torop se faisait appeler Vissarion et affirmait à ses disciples être la réincarnation de Jésus-Christ. Dans les années tourmentées qui suivent l'effondrement de l'URSS, le gourou annonce la fin du monde et promet à ceux qui le suivent en Sibérie d'y échapper par la prière et le rejet de la vie moderne. Installé dans une vingtaine de hameaux, ses adeptes vivent retirés du monde, sans école ni médecin et selon des préceptes mêlant écologie et spiritualisme. Jusqu'à présent, les autorités russes avaient laissé la secte se développer sans entrave, mais ces dernières années, la pression s'est accrue sur les mouvements sectaires en Russie. Plusieurs témoins de Jéhovah ont ainsi été condamnés à des peines de prison ferme pour appartenance à une organisation extrémiste. Daniel Valo, Moscou, RFI.
Ainsi se referme ce journal en français facile. Zéphirin et moi vous souhaitons une bonne soirée à l'écoute d'RFI.